à Tire-d'Aile, une rubrique consacrée à l'écologie et plus spécialement à l'ornithologie. Cette rubrique, nous la devons à l'ornithologue Frédéric Mahler en partenariat avec la section Île-de-France de la Ligue pour la protection des oiseaux. Une belle collaboration donc entre la LPO et l'Alpha 10-13. Tous les mois, on découvre ensemble un peu plus le monde passionnant des oiseaux et le travail essentiel de la LPO. Et dans cette huitième chronique, Frédéric Mahler nous parle des refuges LPO. Depuis 1921, le programme Refuge LPO propose d'agir concrètement en faveur de la biodiversité. Sur son terrain, son jardin, son balcon ou sa terrasse, le propriétaire ou locataire s'engage à préserver et protéger la nature au sens large. La faune, la flore sauvage, le sol, l'environnement tout entier. Rejoindre le programme des refuges LPO, c'est faire partie du premier réseau de jardins écologiques de France. Alors écoutons tout de suite à Tire-d'Aile, saison 1, épisode 8, les refuges LPO, une chronique de Frédéric Mahler de la LPO Île-de-France pour l'Alpha 10-13.
Du 20 au 25 mai 2026 se déroulera la 20e fête de la nature. À cette occasion, des centaines d'animations vont faire découvrir des coins de nature un peu partout en France, depuis les lieux les plus sauvages jusqu'aux endroits les plus urbanisés. Il n'y a pas d'endroit qui ne recèle pas un coin de nature. Vous pouvez en trouver le programme complet pour votre région en allant sur le site de la Fête de la Nature, fêtedelanatureenunseulmot.com. Pour y participer, la LPO incite les propriétaires des refuges qu'elle patronne à les ouvrir pour faire découvrir à leurs voisins ou aux habitants de leur commune leurs petits ou grands trésors. Qu'est-ce qu'un refuge LPO ? Un endroit où les propriétaires font tout ce qui est en leur pouvoir pour accueillir et favoriser la biodiversité. Pour cela, pas besoin de posséder 150 hectares de forêt. Un petit jardin peut être très utile à la faune sauvage. Il faut juste s'engager à respecter, dans la mesure du possible, un certain nombre de règles. Lesquelles ? Tout d'abord, évidemment, ne pas chasser et ne pas pêcher, c'est le moins qu'on puisse faire. Tout aussi évident, ne pas utiliser de produits chimiques. La LPO se bat assez contre Bayer et les néonicotinoïdes pour commencer par s'appliquer ses propres recommandations. À la place des engrais chimiques, on peut utiliser le compost que l'on produit à partir de ces déchets organiques. Ensuite, on favorise les zones de végétation libre, où on laisse pousser les herbes et les fleurs sauvages. On peut avoir, d'un côté, des zones de gazon bien tondues pour profiter du soleil, et d'un autre, choisir des secteurs où on laisse pousser la végétation. C'est important pour permettre à la petite faune de se cacher et de se protéger de la chaleur de l'été, mais aussi pour produire du nectar qui attire les insectes et des graines pour les oiseaux. On peut aussi planter des arbustes qui vont fleurir et donner des petits fruits, viorne, cornouiller ou aubépine par exemple. Pour cela, on choisit des variétés locales à la place des variétés exotiques ou horticoles, souvent très jolies mais parfois stériles et peu accueillantes pour les insectes locaux. On essaye de récupérer l'eau de pluie et on crée des points d'eau pour la faune, voire des petites mares. On pense souvent à nourrir les oiseaux en hiver, mais on oublie en été de leur donner à boire. Et certains insectes en ont aussi bien besoin. Mais attention à ne pas créer des pièges pour la faune. Ribes verticales ou glissantes, poteaux creux, etc. S'il y a une piscine, on pense à mettre des dispositifs flottants qui éviteront à certains petits animaux de se noyer. Si le terrain est entouré d'une clôture, on pratique de petites ouvertures au ras du sol pour laisser passer les hérissons. Si on a la chance d'héberger des animaux du bâti dans sa maison ou ses dépendances, on en accepte les quelques petits désagréments et même on facilite leur installation en disposant des nichoirs à hirondelles ou martinets ou des abris à chauves-souris. On évite au maximum aussi la pollution lumineuse pour déranger le moins possible la faune nocturne. Et comme les jardins sont un milieu important pour toute la faune, en particulier en zone urbaine ou suburbaine, on peut s'inscrire au programme de sciences participatives qui permettent d'évaluer la richesse des zones protégées. L'Observatoire Oiseaux des Jardins organise un week-end de comptage les 30 et 31 mai prochains sur le même modèle que celui dont j'ai parlé en janvier. Vous notez pendant une heure les espèces d'oiseaux qui visitent votre jardin et vous retenez pour chacune d'elles le plus grand nombre d'individus vus en même temps. Si à un moment vous voyez deux pinsons, puis trois, puis un, vous notez seulement 3 et vous transmettez vos résultats sur la page d'Oiseaux des Jardins. Mais allez la consulter avant pour vous inscrire. Oiseaux des Jardins, en un seul mot, .fr. Vous pensez sans doute que c'est bien sympathique, ces jardins où on déclare refuge LPO, mais que cela n'a pas une grande efficacité. Détrompez-vous. Vous serez sans doute surpris par la superficie totale de nature préservée par ces refuges. Ce sont pas moins de 68 000 hectares qui sont protégés par les divers types de refuges LPO, jardins particuliers, entreprises ou collectivités. Soit 5 fois la superficie de la réserve nationale de Camargue. C'est donc tout sauf négligeable. Pour avoir une idée de ce qu'on peut faire, le plus simple est de visiter des refuges LPO ouverts à l'occasion de la Fête de la Nature. Je vous rappelle le site pour trouver le programme, fêtedelanature.com. Et en consultant le site de la LPO, vous verrez qu'on peut aussi faire un refuge avec un simple balcon ou une terrasse. Alors n'hésitez pas et créez votre refuge LPO.
Et comme souvent, nous clôturons maintenant ce « À tire d'aile » par l'espèce du mois. Après nous avoir parlé de l'hirondelle de fenêtre et de l'hirondelle rustique, Frédéric Mahler nous parle ce mois-ci de l'oiseau des 100 jours, aussi surnommé l'arbalétrier.
Pour les amateurs d'oiseaux, le mois de mai est marqué par le retour de deux espèces emblématiques des chaleurs estivales, la tourterelle des bois et le martinet noir. Même si les pionniers sont arrivés en avril, c'est en mai que les doux roucoulements de la tourterelle et les cris stridents des martinets se font en général le plus remarquer. Le martinet noir est vraiment une espèce incroyable. Mais commençons par apprendre à le reconnaître et à le distinguer des hirondelles avec qui il est souvent confondu, même s'ils ne sont pas du tout de la même famille. Le martinet est parfois surnommé l'arbalétrier à cause de sa silhouette. Les deux ailes en forme de faux, la petite tête et le corps fuselé rappellent effectivement un peu l'arbre moyenâgeuse. Mais c'est surtout sa manière de voler qui le fait reconnaître. Au lieu du vol sinueux, voire papillonnant des hirondelles, le martinet a un vol direct avec des ailes qui semblent plutôt vibrer. C'est en général en groupe qu'il fonce à toute vitesse dans l'enfilade d'une rue ou tourbillonne entre les façades qui entourent une place. On dirait qu'il recherche les endroits où ses cris résonneront le mieux. Ajoutons que le martinet noir a le corps entièrement sombre, avec à peine une petite tache claire au menton, alors que les hirondelles de notre région ont le ventre clair. Je disais que c'est une espèce vraiment extraordinaire, mais voyez plutôt. Déjà, c'est une des espèces les plus rapides au monde. On estime à environ 200 km/h les pointes qu'il peut atteindre juste pour s'amuser. Ensuite, et c'est sans doute le plus fantastique et ce qui conditionne les autres particularités, l'oiseau ne se pose quasiment jamais en dehors de la période de nidification. C'est-à-dire que du mois d'août au mois de mai suivant, il fait tout en vol. Il chasse les insectes, parfois à des dizaines de kilomètres de son nid. Il se désaltère en rasant la surface de l'eau qu'il écope avec sa mandibule inférieure. Il s'accouple aussi en vol, ce qui forme transitoirement une silhouette à quatre ailes qui déconcerte fortement celui qui y assiste pour la première fois. Comme à ce moment-là, les ailes s'arrêtent de battre, on imagine facilement que l'acte est assez bref, les oiseaux devant se séparer avant d'atteindre le sol. Mais de toute façon, chez les oiseaux, les accouplements durent rarement longtemps. Encore plus étonnant, les martinets dorment aussi en vol. En fin d'après-midi, après des carousels parfois spectaculaires et toujours bruyants, on voit les troupes de martinets monter en large cercle et finir par disparaître à nos yeux dans l'obscurité de la nuit qui vient. La plupart ne redescendront qu'au lever du jour. Entre-temps, il semble bien qu'ils alternent des périodes de sommeil, en planant doucement, et des périodes d'éveil qui leur permettent de regagner de l'altitude. En fait, les adultes nicheurs passent la nuit au nid, mais les jeunes immatures et les adultes hors période de reproduction semblent bien tous dormir en vol. Cette importance du vol rend le martinet très sensible aux conditions météorologiques et en particulier aux fortes dépressions orageuses. L'oiseau, à l'approche d'une telle tempête, est capable de quitter son lieu de reproduction pour contourner la dépression et revenir avec le retour du temps calme en ayant fait parfois un millier de kilomètres en 2-3 jours. On appelle parfois le martinet l'oiseau des 100 jours, en référence à son bref séjour chez nous. Le gros des troupes arrive en effet autour du 1er mai et repart fin juillet, même si on en voit encore mi-août et que les derniers retardataires passent jusqu'à mi-septembre. Il vient essentiellement pour se reproduire. Il pond ses œufs dans un nid sommaire, fait de brindilles et de plumes agglomérées par sa salive, qu'il installe, en milieu naturel, dans une anfractuosité de rochers ou une cavité d'arbre, mais le plus souvent, sous un toit ou dans une fissure de bâtiment dans nos villes et villages. Il pond 2 à 3 œufs et nourrit ses jeunes de petites boules constituées de centaines d'insectes agglomérés. Les parents gavent leurs jeunes jusqu'à ce qu'ils soient devenus trop lourds pour pouvoir voler. Ils les abandonnent alors en les laissant jeûner. Ils s'envoleront tout seuls quand ils auront un peu maigri. C'est à cette période très délicate qu'il y a le plus de chutes de jeunes martinets au sol qui ne peuvent s'envoler. Si vous en trouvez, apportez-le au centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche en l'ayant placé au calme dans une boîte en carton. Ensuite vient le temps des migrations. Il part pour l'Afrique tropicale ou équatoriale. Il y va sans trop se presser. Son rythme annuel, c'est en gros 3 mois pour nicher, 3 mois pour descendre en Afrique, 3 mois d'hivernage et 3 mois de remontée. Si vous comptez qu'il vole en gros à 50 km/h, un martinet parcourt en moyenne 1000 km par jour, soit à peu près 350 000 km par an. Comme les jeunes ne se reproduisent pas avant 3 ans, on peut estimer que quand il quitte le nid, le jeune martinet est parti pour 1 million de kilomètres avant de se poser. Et comme le plus vieux martinet connu avait 21 ans la dernière fois qu'on a pu lire sa bague, on peut estimer qu'il avait fait entre 6 et 8 millions de kilomètres, soit environ 10 fois l'aller et retour Terre-Lune. Alors un peu de respect, la NASA. Pour résumer, le martinet est insectivore, migrateur transsaharien et niche dans les bâtiments. 3 raisons que l'espèce aille mal. Effectivement, en 25 ans, l'espèce a perdu 65% de ses effectifs en France et presque 80% en Île-de-France. Les 2 causes principales sont évidemment l'efficacité des pesticides, qui font disparaître les insectes, et les travaux de rénovation des bâtiments, qui font disparaître leur site de nidification. Je renouvelle mon appel à signaler les colonies de martinets que vous connaîtriez sur la page de notre observatoire Martinet Hirondelle, sur le site de la LPO Île-de-France. Les martinets ont besoin de votre aide. À la prochaine, et d'ici là, gardez vos yeux et vos oreilles bien ouverts.